Nous allons maintenant joindre la docteure Joanne Blais à Québec à 16h51. Bonjour Joanne.
Bonjour Marie-Claude.
Alors, est-ce que tu veux commencer par le petit rectificatif sur l'histoire d'hier ou cette histoire du petit bébé qui a failli mourir? Je te laisse le choix.
Bien, je pense qu'on peut commencer par le rectificatif. D'accord. Pour hier. Alors, faut dire un gros merci à M. Moretini, qui est un neuropsychologue qui travaille, entre autres, à l'Institut de réadaptation à Montréal. Et il nous a amené des précisions qui, effectivement, sont tout à fait adéquates, mais que je voulais quand même préciser que je n'ai pas dit que le patient était apte à prendre la décision nécessairement. Mm-hmm. C'est que même s'il a été jugé inapte, effectivement, et c'est ce que M. Moretini nous dit, puis
à l'hôpital,
raison,
oui.
À l'hôpital. Et que les gens ont décidé de demander de se présenter en cours pour ça. Et ça reste que même s'il est inapte pour un problème de santé mentale, ce que je mentionnais, c'est qu'il y avait le droit quand même de refuser le traitement.
Voilà.
Je ne dis pas que tous les patients qui sont inaptes peuvent refuser les traitements, mais ce monsieur-là avait le droit de le refuser. Et M. Moretini nous explique quand même, dans les raisons que le juge avait données, c'est vrai qu'on n'avait pas mentionné que les médecins n'étaient pas capables de spécifier la probabilité qu'une septicémie s'installe et que une telle chirurgie comme ça, ben, ça pouvait amener le patient à croire qu'on ne pouvait pas essayer d'autres choses, donc ça pouvait aussi porter préjudice au patient. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce monsieur-là, tout en ayant un problème de santé mentale et jugé inapte, était dans son droit de refuser le traitement.
De dire « vous ne m'amputerez pas des deux jambes ».
Exactement, et voilà. De dire, et en plus, ben, comme il mentionnait qu'il sentait ses jambes, ben, je pense que c'était tout à fait correct de dire, ben, écoutez, on va laisser la chance au coureur, tout en précisant que le juge a mentionné que s'il y avait éventuellement un danger de décès, ben, que ça se pourrait qu'il change son jugement.
Excellent. Bon, voilà. Fin de la rectification. Maintenant, revenons sur l'histoire de ce petit bébé, 2 mois, qui a failli mourir parce qu'une infirmière lui a donné une dose de fentanyl qui aurait pu être mortelle. Joanne, ma première question, après avoir entendu la maman tout à l'heure, est-ce qu'un hôpital n'est pas tenu de révéler aux parents ce genre d'erreur médicale?
C'est que la loi sur la santé et les services sociaux, et je tiens à préciser que je ne suis pas avocate, mais que nous, en tout cas dans notre établissement, mais il faut mentionner que chaque comité de gestion des risques a des règlements qui peuvent varier d'un établissement de santé à l'autre. Mais en temps normal, la loi dit que, bon, premièrement, on sait que toute personne qui œuvre dans un établissement de santé doit déclarer à l'établissement, donc au directeur général ou à son représentant, tout incident ou accident, puis que tout accident doit être divulgué à l'usager. Ça, c'est des choses qui sont très, très claires dans la loi. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'habituellement, la déclaration est faite au comité de gestion des risques qui sont de chaque établissement de santé. Donc, le directeur général désigne des gens qui font partie d'un comité de gestion des risques et la déclaration est faite à ce comité-là. Par contre, une fois que le comité de gestion des risques a pris acte de cet accident-là, effectivement, il faut que la déclaration soit faite le plus tôt possible. Mais, par exemple, ici chez nous, c'est le médecin traitant qui est informé de l'accident et c'est lui qui doit faire la divulgation auprès de l'usager.
OK. Alors que dans ce cas-ci, on a l'impression, et tu me corrigeras si je me trompe, que c'est le médecin qui a comme un peu fait enquête pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, pour savoir si le bébé avait vraiment des problèmes cardiaques ou quoi. Et ça avait l'air de l'inverse, là. Mais d'après toi, l'hôpital, éventuellement, aurait sorti...
Moi, je pense que c'est parce que c'est difficile en se tenant juste à ce qui est mentionné et c'est les perceptions que les gens ont, et je comprends très bien, mais je serais très étonnée que l'hôpital n'ait pas été mis au courant, un, parce que c'est une obligation vraiment, et que deux, ben, faut comprendre que est-ce que effectivement le comité, parce que c'était du 23 au 24 décembre, a pris un petit peu plus de temps, et c'est des suppositions, j'en sais rien, je n'ai pas vu le dossier, mais est-ce que il y a eu un petit retard au niveau du comité de gestion des risques parce que c'était dans une période un petit peu pas des vacances, mais période des fêtes, ça j'en sais rien, et c'est vrai que le médecin a écrit dans son rapport qu'il avait mentionné qu'il y avait une erreur, mais est-ce qu'il était au courant ou c'est lui qui l'a trouvé? Ça, moi, je ne peux pas m'avancer.
C'est pas clair. Puis on a une version, puis on peut croire la maman. C'est pas qu'on la croit ou qu'on la croit pas, c'est juste qu'on n'a pas pu interviewer les gens de l'hôpital. Alors, une dernière petite question là-dessus. Pourquoi on donne... La maman disait que c'était pour garder le bébé calme, mais c'est normal de donner du fentanyl à un bébé de 2 mois?
Bien, ce qui me manque, moi, comme information, mais ce que j'ai supposé, puis encore là, je fais des suppositions, c'est que comme cet enfant-là avait été hospitalisé pour des problèmes respiratoires, donc on supposait soit une pneumonie, soit une bronchiolite, parce que deux mois, il y a des bronchiolites aussi qui sont
très fréquentes. Je pense que c'était bronchiolite,
oui. Mais est-ce qu'il était intubé?
Oui, parce que, oui.
S'il est intubé, ça a bien du sens qu'il lui donne du fentanyl, parce que si on regarde dans les... parce que je regardais entre autres à Sainte-Justine, dans leur processus au niveau de médication, c'est un médicament qu'on utilise aussi chez les jeunes bébés pour les calmer, parce que ça diminue la douleur due à l'intubation.
Okay.
Ça fait que c'est un analgésique, c'est un anesthésique, mais c'est vraiment un opiacé qui est utilisé pour diminuer la douleur. On dit aussi chez les adultes, mais ça peut être aussi chez les enfants, l'hypertension liée à l'intubation. Donc, en donnant une dose de fentanyl, effectivement, le bébé se calme et il n'est pas en mesure de nous dire s'il y avait mal, donc on suppose aussi que ça le soulage. Mais c'est sûr que la dose, c'est des petites doses. On parle de 0,5 à 1, 2 microgrammes par kilo. Donc, si le bébé pesait 4 kilos, on peut supposer que si elle a mis 4, bien, ils ont donné 4 microgrammes
oui,
kilo au lieu de 0,5 à 1 microgramme
ils
kilo.
Auraient donné une dose qui aurait pu tuer quelqu'un de 130 livres, nous a-t-on dit. Alors, voilà. Oui. Ma chère Joanne, on avait un autre sujet, mais on va le garder pour la prochaine fois qu'on travaillera ensemble, ce qui, j'espère, sera très bientôt. Ça a été un bonheur de te retrouver pendant ces quelques semaines du temps des fêtes. Merci infiniment.
Je veux dire merci à toi aussi et un gros merci à tous les gens qui nous écoutent.
Ben, voilà. Et nous, on s'arrête le temps des nouvelles.